Donc, Romains 8, 31. Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera? Le Christ Jésus est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou le dénuement ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit à cause de moi, à cause de toi, on nous met à mort tout le jour, on nous considère comme des brebis qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Donc ça, c'est un texte qui est très connu, mais on va le prendre verset par verset. Paul vient de dire que Dieu a un plan, on attend avec persévérance la glorification, le salut, parce qu'on est sauvé en espérance. Et en attendant, qu'est-ce qu'il faut dire, dit Paul? Si Dieu est pour nous, puisqu'il vient de dire Dieu nous a appelés, justifiés, glorifiés, prédestinés, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. C'est quelque chose qu'il faut se rappeler. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils. Parce que vous avez, mais qu'il a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? C'est-à-dire que parfois, on regarde les problèmes, on regarde les difficultés. Et c'est vrai que l'opposition peut être grande et forte, d'accord? Mais si Dieu est avec nous, qu'est-ce qu'on craint, finalement? Vous voyez? Et ensuite, Paul va jusqu'à dire au verset 32, lui, en parlant du Père, lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui? C'est-à-dire que s'il a été prêt à nous donner son propre Fils, pourquoi il nous abandonnerait? Pourquoi est-ce qu'il nous laisserait tomber après? Vous voyez? Vous savez, si quelqu'un investit, prenons un exemple dans le domaine des affaires. Mettons que quelqu'un investisse dans, je ne sais pas, un magasin de ce que vous voulez, un magasin quelconque ou une affaire quelconque. S'il a investi beaucoup, même si le magasin est en difficulté, parce que l'investisseur derrière a investi, il va tout faire pour que ça marche. Regardez les clubs de foot. Quand il y a des investisseurs derrière, ils font tout pour que ça marche. Ils vont changer, s'il faut, l'entraîneur. Ils vont essayer de trouver des nouveaux joueurs. Mais ils veulent que l'affaire, elle marche. Vous suivez? Et ça, c'est un exemple du monde. Maintenant, Dieu a investi son propre Fils pour nous. Donc il ne va pas nous abandonner, vous voyez? Il va tout mettre en œuvre pour qu'on arrive au bout de la course, alléluia, et qu'on soit vainqueur avec lui. Le problème qu'on a, c'est qu'on considère le salut de manière complètement différente. C'est-à-dire qu'on se dit « j'ai été sauvé de justesse, c'est vraiment la grâce de Dieu, je ne le méritais pas, ça c'est sûr, et donc je ne sais même pas. J'espère que je vais vraiment être sauvé, parce que entre maintenant où j'ai été sauvé et puis la fin de ma vie, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Et on a tout juste l'assurance du salut, si, pour dire que si ça se trouve, on ne l'a même pas. Et on a l'impression qu'on ne mérite rien, et que moins on en a, plus ça prouve qu'on est spirituel. Vous voyez, je veux dire. Mais ce n'est pas ça. Dieu dit tout à fait le contraire. Il dit, ok, il y a des souffrances, ok, il y a des persécutions, mais tu as le ciel tout entier qui se mobilise en ta faveur, parce que si Dieu a mobilisé son Fils, alors tout le reste, il le mobilisera aussi. Vous comprenez, je veux dire? Donc en fait, on a l'armée de Dieu qui est là, qui est prête à intervenir. Vous suivez? On a la grâce de Dieu qui est pour nous. On n'a rien à craindre en réalité. Et c'est vrai qu'il y a les difficultés, il y a l'épreuve, il y a l'école par laquelle on passe, mais Dieu est avec nous. Donc en fait, au bout du compte, on n'a rien à craindre. Est-ce que vous suivez ça? Comme Gédéon? Dans quel sens? Oui, Gédéon était le plus petit, etc.
Il a
Mais
dit vas-y vers la guerre et qu'ils
tout à fait.
étaient 300. Il a dit mais n'aie pas peur, ils sont 7 000, mais nous on est éternellement.
C'est juste. Donc, Gédéon était faible, il se croyait petit, mais quand Dieu lui dit, moi je serai avec toi, Gédéon ne comprend pas sur le moment. Mais s'il avait vraiment compris, attendez, Dieu est avec moi, je crains rien. Il est resté craintif. Il a eu besoin de plein d'encouragements, de signes répétés, etc., pour que finalement ils disent, ok, bon, ça va, je crois. Ok, on va y aller quand même. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Vous voyez, ça c'est important. Comment est-ce que je sais que Dieu est pour moi? C'est parce qu'il m'a donné son Fils. C'est la preuve. La preuve de l'amour de Dieu, c'est qu'il a envoyé Jésus, son Fils, mourir pour moi sur la croix. C'est sa preuve. Ok? Dieu n'aime pas seulement, c'est ces gens qui disent, n'aimez pas seulement en parole seulement, mais en action et en vérité. Dieu lui-même n'aime pas en parole seulement, il a aimé en action et vérité parce qu'il a envoyé son Fils. Vous comprenez? Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Parce que le diable vient t'accuser. Il te dit, attends, tu dis que tu es chrétien et tu fais ça et tu dis ça. Et il t'accuse. Vous voyez? Mais vous pouvez dire non, j'ai été choisi par Dieu. Dieu m'a sauvé. D'accord? J'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie. J'ai été justifié. Oui, j'ai encore des problèmes. Oui, je fais encore des erreurs. Mais qui ose m'accuser? Qui ose m'accuser? Personne ne peut m'accuser. Vous voyez, je veux dire, je ne me laisserai pas accuser par le diable, ou par ses serviteurs, ou par des chrétiens soi-disant bien intentionnés qui font le travail du diable, je ne me laisserai pas accuser. Qui accusera les élus de Dieu? Vous suivez? Je raconte souvent cette histoire, mais j'aime beaucoup. J'étais dans le bureau du pasteur qui m'a formé il y a bien des années. Et puis, il y avait une femme de l'église qui n'était pas mariée et qui est tombée dans l'adultère avec un homme qui était marié avec 5 enfants. Imaginez un peu le truc. Et puis la femme de cet homme appelle l'église en disant, eh ben, elle est bien belle votre église, voyez que moi, mon mari, maintenant, il est parti avec une membre de votre église. Alors, branle-bas de combat, on convoque cette sœur, on lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et elle est venue avec son Jules, d'accord? Et puis, dans le bureau. Et puis, c'est lui qui a pris la défense en disant, bah oui, d'accord, j'ai quitté ma femme pour elle, etc. Mais enfin, après tout, dans sa défense, il dit au pasteur, vos chrétiens, ils sont pas parfaits, votre église, elle n'est pas parfaite. Et puis, je m'attendais à ce que le pasteur, qui connaissait bien ses chrétiens, et moi, j'étais stagiaire avec lui, donc je savais que, bon, tout n'était pas parfait, je m'attendais à ce qu'il dise, oui, effectivement, mon église n'est pas parfaite. Et vous savez ce qu'il a répondu? Mon église, elle est parfaite, et je vous interdis d'y toucher. Comprenez? Et puis, bon, je vous raconterai pas la suite de l'histoire. Mais ça s'est terminé, pardon, hors caméra, si vous voulez. Mais mon église, quand il a dit mon église, elle est parfaite, ça veut dire quoi? Spirituellement, il prenait position contre l'accusateur. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, cet homme était simplement sans Christ, sans Dieu, et il raisonnait comme le monde raisonne. Mais en même temps, c'est le diable qui accuse. Vous comprenez ce que je veux dire? Et le diable aimerait vous faire croire, de toute façon, vous savez, le raisonnement, personne n'est parfait, etc., etc. Mais non, mes amis. Qu'est-ce que dit Paul ici? Qui accusera les élus de Dieu? Donc Paul nous considère au niveau de la perfection. Et quand le pasteur en question a dit, bon, l'Église, elle est parfaite et je vous interdis d'y toucher, ce n'était pas juste de la bravade, vous voyez ce que je veux dire? C'était la vérité en Jésus-Christ. Vous me direz, mais je ne comprends plus, parce qu'effectivement, dans la pratique, l'Église en question n'était pas parfaite. dans le sens qu'on pouvait trouver des défauts. Non, elle était parfaite. Parce que Dieu nous a déclarés justes par le sang de Christ. Vous suivez ? Maintenant, évidemment qu'on marche avec Dieu, qu'on fait encore des erreurs, etc. Mais on est parfait en Jésus-Christ. On a été sanctifié, on a été mis à part. Okay. Et tout ce qui reste encore à faire comme travail pour devenir semblable à Jésus, c'est entre les mains de Dieu, mais on n'a pas le droit de nous accuser. Vous suivez ? On n'a pas le droit de nous accuser. Voilà, Dieu est celui qui justifie. Si c'est Dieu qui justifie, ça veut dire que la plus haute cour de justice dans l'univers nous a déclaré juste. Donc personne n'a le droit d'aller contre le jugement de Dieu. Vous suivez ? On a été déclaré juste par la plus haute cour de justice. Point barre. Maintenant, la question pour nous, c'est de marcher dans la foi de ce qu'on a reçu. Voyez, et de ne pas baisser les bras. Et de continuer à grandir dans cette foi et dans cette réalisation qu'on est mort au péché, qu'on est mort avec Christ, qu'on est une nouvelle créature, qu'on a été justifié, qu'on est béni, qu'on est serviteur, servante de Dieu. Vous suivez ? Vivre dans cette foi et marcher dans cette justice qu'il nous a donnée. Ce n'est pas notre justice, c'est la sienne. Vous voyez ? Et si je tombe, je me relève. Sept fois le juste tombe, sept fois il le relèvera. Vous suivez ? Je me relève au nom de Jésus. Ça fait partie de la marche. J'apprends à marcher, mais je me relève. Si un enfant qui apprend, et il y a des bosses, mais les bosses, elles disparaissent. Si un enfant, écoutez, si un enfant commence à marcher, combien de fois il va tomber, se faire des bleus, des machins, pleurer, etc. Mais à aucun moment, ça viendrait à l'idée de ses parents de le traiter d'imparfait, de nul, d'handicapé, ou je ne sais pas trop quoi, vous voyez ce que je veux dire ? Et même à la limite, s'il était handicapé, pour les parents, il est parfait. Vous suivez ? Parce qu'il est aimé, parce qu'il est choisi, parce qu'il est couvert par l'amour de ses parents, et parce que même, parce qu'il est en train d'apprendre, tout simplement, comme tous les enfants. Et nous, on est en train d'apprendre. On est des enfants, on est appelés à être des fils, on apprend. Amen ? Donc, qui accusera les élus de Dieu ? Vous savez, votre pire ennemi, c'est vous-même, quand vous vous accusez vous-même. Il ne faut pas faire ça. Il faut tout le temps se rappeler de qui on est en Jésus-Christ. Et c'est très important dans la vie chrétienne. Votre identité en Jésus. En fait, Paul ici est en train de construire notre identité. Vous voyez ? On est appelé, on est connu d'avance, on est prédestiné, on est justifié, on est glorifié. C'est tout ça. Voilà ce qu'on est en Jésus-Christ. Vous suivez ? C'est notre identité. Qui les condamnera ? Le Christ Jésus ou Jésus-Christ est celui qui est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Donc oui, ici, on a cette affirmation extraordinaire que Jésus est à la droite du Père et qu'il intercède pour nous, constamment. On retrouve ça dans Hébreux chapitre 7. Regardez avec moi dans Hébreux chapitre 7. Verset 25, c'est pourquoi il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est bien un tel souverain sacrificateur qui nous convenait, saint, innocent, immaculé, séparé des pécheurs. C'est Hébreux 7, 25 et 26. Et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, Hébreux 7, 27, et ensuite pour ceux du peuple. Cela, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Donc il est dit, verset 25, c'est pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant, il est ressuscité, il est assis à droite du Père, d'accord, pour intercéder en leur faveur. Donc C'est en tant que quoi que Jésus intercède pour nous? En tant que souverain sacrificateur. Ok? C'est pour ça qu'on parle de Jean 17 comme la prière sacerdotale, la prière du souverain sacrificateur. Jean chapitre 17, quand Jésus prie pour ses disciples.
Au moment où Jésus dit, ne, je te demande pas de les retirer du monde, mais de les protéger, un truc du genre.
Exactement. Donc Jésus prie en tant que souverain sacrificateur. Qu'est-ce qui se passe dans le tabernacle, dans la Sainte Alliance? Le souverain sacrificateur portait les noms des 12 tribus d'Israël gravés sur des diamants, topaz, améthyste, tous les plus beaux diamants du monde étaient sur sa poitrine, sur ce qu'on appelle le pectoral. Ils étaient certis, et puis sur chaque diamant était gravé, vous imaginez le travail, le nom de chaque tribu d'Israël, qui représentait donc tous les enfants d'Israël. Sur ses épaulettes aussi, le nom était inscrit. Sur sa poitrine, ça représente la prière et l'intercession. Il porte le fardeau de prier pour eux. Et donc, quand il entre, et l'intercession, c'était plus qu'une prière, mais c'était aussi le fait de les porter devant le trône de Dieu, puisqu'il entre dans le lieu très saint une fois par année, avec le sang, avec le parfum, d'accord? Et puis, il met ce sang sur le propitiatoire, et comme le nom des 12 tribus est sur sa poitrine, ça veut dire c'est pour eux que je le fais. C'est leur péché que j'ai confessé quand on a tué le bouc, on a imposé la main au bouc, on a transmis au bouc tous les péchés d'Israël, on a tout confessé, ok? Et maintenant, je porte leur nom sur ma poitrine, et j'entre dans le lieu très saint. Donc c'était un travail d'intercession que faisait le souverain sacrificateur. Et puis ensuite, il sortait, d'accord, et il bénissait le peuple. Ça représente le retour du Seigneur après. Maintenant, évidemment que le souverain sacrificateur ne restait pas 2000 ans dans le tabernacle à l'époque, il restait que quelques minutes, si vous préférez. Mais pour nous, ça fait 2000 ans et plus que Jésus, enfin plus ou moins, que Jésus intercède, enfin plus ou moins, parce que moins que plus, puisque ça fait 2000 ans moins 30 ans, puisque c'est en 2030 qu'il est mort et qu'il est monté au ciel. En 2030, ça fera 2000 ans, mais ça fait environ 2000 ans que Jésus intercède pour nous à la droite du Père, vous suivez? Et qui porte sur lui nos noms, mais nos noms sont gravés sur du diamant. Vous suivez? Il y a même un texte qui dit « J'ai gravé ton nom sur mes mains. » Alléluia. Donc c'est là que vous êtes. Vous êtes dans la présence du Père. Et Jésus dit « Sur mes mains, il y a encore les marques des clous. Sur mes pieds, encore les marques des clous. C'est pour eux que je suis mort. » Et mon sang témoigne qu'ils ont été justifiés. Le prix a été payé pour eux. Vous suivez? Donc ça, c'est l'intercession du souverain sacrificateur. Donc Romains, maintenant, chapitre 8, on revient à Romains 8. Il est ressuscité, verset 34. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Amen. Donc ça, c'est extraordinaire. Extraordinaire de savoir. Pourquoi est-ce que c'est important, vous me direz, que Jésus intercède encore pour nous? Parce qu'on pourrait dire, il est mort pour nous sur la croix, nos péchés étant effacés, donc normalement, tout est bon. Mais il y a l'accusateur, exactement. Il y a l'accusateur. L'accusateur des frères qui fait son travail et qui vient pour nous accuser. D'accord? Et donc, il ne peut pas nous toucher par son accusation, parce que Christ intercède pour nous et son sang témoigne dans le monde spirituel qu'on a été couvert par son sang. La seule chose que l'ennemi peut faire, écoutez bien, c'est utiliser nos querelles entre chrétiens pour s'immiscer et dire en quelque sorte au Père, ils n'ont pas pardonné. Et comme eux, ils n'ont pas pardonné, donc ça me donne un droit sur eux pour les tourmenter. Parce que Jésus a dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses, d'accord? Et on sait d'après la parabole de Matthieu 18 que ceux qui ne pardonnent pas, ils sont tourmentés. Donc chaque fois qu'on ne veut pas pardonner, donc on ne vit pas nous-mêmes dans la grâce pour les autres par rapport à la grâce qu'on a reçue, eh bien on laisse à l'ennemi une possibilité d'intervenir. Parce que nous-mêmes, on ne fait pas grâce. Vous suivez? C'est pour ça que le seul moment dans le Nouveau Testament où il est dit que on peut laisser du terrain à l'ennemi, et le mot terrain, c'est le mot topos, d'où vient le mot topographie, les cartes géographiques, vous savez. Le seul moment où on peut laisser du terrain à l'ennemi, c'est dans Éphésiens chapitre 4, où il est dit, ne vous couchez pas sur votre, ne vous couchez pas sur votre colère, d'accord, et ne laissez pas accès au diable. Donc la colère, les paroles dures, c'est-à-dire sans pardon, sans faire grâce, ça ouvre un terrain à l'ennemi. C'est la seule manière qui reste à l'ennemi pour prendre du terrain dans l'Église. Le reste, il ne peut rien faire. Vous suivez? Parce que nos péchés ont été pardonnés. Donc à nous de veiller à rester dans la grâce, à ne pas entrer dans le jugement, la critique, le non-pardon et ces choses-là. Parce que c'est ce qui laisse du terrain à l'ennemi. Le jour où l'Église est parfaitement une, pas dans le sens de l'uniformité, parce qu'on est tous différents, mais une dans le sens de la grâce. On se fait grâce les uns aux autres. Parce que Christ nous a fait grâce. À ce moment-là, l'ennemi a perdu. Il a complètement perdu. Il est vaincu. Ok. Donc, il intercède pour nous. Oui ?
On a Jésus qui intercède, et aussi plus haut, on a l'Esprit,
oui,
qui prie en notre faveur. Donc en fait, on est doublement...
Le Saint-Esprit prie en faveur des saints, Jésus intercède pour nous, le Père a tout donné pour nous. Donc c'est comme si Paul nous disait, mais qu'est-ce qu'il vous faut encore ? Qu'est-ce qu'il vous faut encore ? Vous voyez ? Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Verset 35. Et là, Paul va faire toute une liste de choses qui pourraient potentiellement nous séparer de l'amour de Christ. D'accord ? La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le péril, l'épée. Selon qu'il est écrit, à cause de toi, on nous met à mort tout le jour, on nous considère comme des brebis qu'on égorge. Et Paul parlait d'expérience. C'était son expérience. Il était persécuté, Paul. Partout où il prêchait l'évangile, des gens qui se levaient contre lui, il devait s'enfuir, il a été lapidé. Et il donne toute une série de souffrances qu'il a eues dans la deuxième épître aux Corinthiens. Il a eu des naufrages, des lapidations, des choses épouvantables qu'il a vécues. Il a souvent dû dormir dehors. Il n'avait pas d'endroit où dormir, etc., etc. Et il dit verset 37, mais dans toutes ces choses, rappelez-vous, le « toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu », dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce « plus que vainqueur » ? La première victoire, c'est qu'on va sortir de l'épreuve, à un moment donné ou un autre. Avec l'épreuve, Dieu prépare le moyen d'en sortir, dit Paul dans la première épître aux Corinthiens. D'accord ? Donc, on sort un moment des épreuves. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura plus, mais à un moment donné, on en sortira. Ça, c'est une première victoire. Mais ce qui fait qu'on est plus que vainqueur, c'est qu'à cause et dans cette épreuve, nous-mêmes, on a été transformés. Et donc, on a été enrichi. Vous suivez ? L'épreuve nous fait grandir. Donc, en fait, on est doublement gagnant. Vous suivez ? D'abord, parce que l'épreuve n'arrive pas à nous vaincre. Et deuxièmement, parce que l'épreuve, en fait, nous a enrichis. Elle nous a fait grandir. C'est pas beau, ça ? Vous voyez ? Je suis plus que vainqueur. Parce qu'au travers de ces épreuves, je suis en train de grandir. Dieu est en train de faire une œuvre en moi. Et ça, c'est extraordinaire. Ok ? Nous, on se bat contre l'épreuve et notre prière, c'est Seigneur, fais-moi sortir de l'épreuve, je ne veux pas souffrir. Enlève la souffrance. En général, c'est la prière. On prie tous pareil. Enlève la souffrance. Pas vrai ? Et qu'est-ce qu'il dit Paul ? Non. Si tu passes par ces souffrances, de toute façon, on va le prier, hein. Mais si tu passes par ces souffrances, tu seras doublement vainqueur. Parce qu'un jour, tu vas t'en sortir. Dieu, de toute façon, il va t'en sortir. Il sait ce que tu peux supporter. Il sait qu'à un moment donné, tu ne pourras plus supporter. Donc, tu vas t'en sortir. L'épreuve ne te vaincra pas. Mais en plus, Dieu est en train de te transformer. Vous voyez ? Donc, on est doublement vainqueur. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ok.
En plus, il dit qu'il ne fera rien qui va aller au-dessus. Il sait que ça, on ne pourra pas faire. Qu'il ne renforce point, c'est ça.
Oui. Alors, c'est un texte qui est dans. Je crois que c'est un Corinthiens 10, 13. Oui, 1 Corinthiens 10, 13, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, ou on pourrait traduire avec l'épreuve, c'est le même mot, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. C'est-à-dire que Dieu sait quelles sont nos limites. Voyez, nous, on ne sait pas, juste entre nous, hein, Dieu connaît vos limites, vous ne les connaissez pas. En sport, c'est comme ça. Vous avez un coach. À un moment donné, vous faites du sport, vous avez mal, et vous avez envie d'arrêter. Le coach dit non, tu peux aller plus loin que ça encore. Lui, le coach, par expérience, il sait où sont tes limites, et toi, tu as envie d'arrêter dès que tu as un petit peu mal. Il dit non, continue, persévère. Parce qu'il sait qu'en persévérant malgré les courbatures, etc., ou les muscles qui commencent à... Il sait que c'est à ce moment-là que tu vas te fortifier. D'accord ? Donc si tu t'arrêtes trop vite, eh bien tu ne vas pas te fortifier. Si tu t'arrêtes trop tard, par contre, tu vas te démolir. Donc, au coach, de savoir exactement au moment où il faut... Maintenant, on s'arrête. Pas plus loin. Vous voyez ? Et Dieu est comme un coach sportif. Ok ? Dans ce sens-là, on pourrait dire. Et donc, on va s'aguerrir, les amis. On est doublement vainqueur. Vous suivez ? Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges... ni les dominations, ni le... Alors, parce que vous avez des chrétiens qui vous parlent de tout ce que le diable est capable de faire, les esprits dans les lieux célestes, les puissances, les dominations, les autorités, les machins, les trucs, les choses, la franc-maçonnerie, le tout, le... enfin, d'accord. Et ils en font un tel pataquès que finalement, vous avez l'impression que vous allez mourir en quelques secondes, ok. Mais qu'est-ce que dit Paul? Je suis persuadé que aucune de ces choses, en bref, d'accord, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ça veut dire que la plus grande puissance de l'univers, c'est l'amour de Dieu. Et qu'il n'y a rien, absolument rien, qui peut nous séparer de cet amour. Amen. Donc ça, c'est important. Il dit même, il commence, écoutez bien, dans sa liste, il commence par la mort. La mort ne peut pas nous séparer de l'amour de Dieu. Vous vous rendez compte? Ok? Quelqu'un meurt, et alors? Si il est en Christ, il est mort en Christ.
Tant mieux pour lui.
Tant mieux pour lui, exactement. Il retourne à la maison plus vite que nous. Ok? Quelle chance, oui, si on veut. Je ne sais pas comment on voit les choses. Et c'est Paul qui dit, bon, je ne sais pas qu'est-ce qui est le meilleur, j'aimerais partir, mais en même temps, il faut que je reste, c'est pour vous. Mais si c'était moi, je préférais partir. Parce que Paul était complètement détaché, lui. Vous voyez? Ça, c'est dans Philippiens chapitre 1. Donc, pourquoi est-ce que Paul pouvait parler comme ça? Parce qu'il avait des épreuves tout le temps. D'accord? Il était tout le temps entre la vie et la mort. Des fois, ça allait très bien, des fois, ça allait très mal. Il avait appris, avec toutes ses épreuves, à gérer tout ça, à voir plus loin. Et il était persuadé, convaincu, qu'il n'y avait aucune de ces choses qui pouvait le séparer de l'amour de Dieu. En fait, c'est comme si Paul nous disait, écoutez les amis, la chose la plus importante, ce n'est pas vos épreuves, ce n'est pas vos succès, ce n'est pas la grandeur de votre ministère, ce n'est pas la puissance de votre onction, ce n'est pas vos connaissances, ce n'est pas votre intelligence, ce n'est pas votre expérience, ce n'est pas votre compte en banque. La chose la plus importante, ce n'est pas la grandeur de votre bâtiment d'église, c'est que Dieu vous aime. Ça, c'est la chose la plus importante. Si je sais que Dieu m'aime et qu'il m'a aimé comme il m'a aimé en envoyant son Fils mourir pour moi sur la croix, mais qu'est-ce que j'ai à craindre? Qu'est-ce que j'ai à craindre? Vous voyez? Qu'est-ce que j'ai à m'inquiéter? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? À rien. C'est Jésus qui dit à ses disciples, mais écoutez, les oiseaux ne s'inquiètent pas. Et pourtant, si vous voulez parler de précarité, les oiseaux, c'est précaire. Vous savez, il y a quelques jours, parce qu'on est fin octobre, enfin, on était fin octobre, ma femme a vu, elle a pris une photo dans un parc à Marseille, dans des arbres, il y avait plein, plein, plein d'oiseaux qui se préparaient à partir. C'était le moment les oiseaux migrateurs qui partent, vous voyez, je veux dire. Il y avait plein, 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 ça faisait un bruit énorme, ils étaient tout excités de partir. Les oiseaux, est-ce que vous croyez qu'ils s'inquiètent? Ils vont faire des milliers de kilomètres pour aller dans un autre pays, ils vont revenir au printemps, ils savent quand ils partent, ils savent quand ils reviennent, ils connaissent leur itinéraire, ils ne s'inquiètent pas. Ils dépendent complètement de Dieu, complètement. Ils n'ont pas de maison, ils n'ont pas d'assurance vie, ils n'ont pas d'hôpitaux, ils n'ont rien. Ils mangent quoi? Ils mangent des vers de terre. Pour faire leur nid, ils prennent des brindilles. Est-ce qu'ils s'inquiètent? Non. Plus précaire que ça, tu meurs, non? Vous imaginez vivre dans un. Vous imaginez que vous n'ayez que des brindilles, etc. Et qu'est-ce que dit Jésus à ses disciples? Est-ce qu'ils s'inquiètent? Est-ce qu'ils moissonnent? Est-ce qu'ils fabriquent leurs vêtements? Non. Ils sont pas inquiets. Parce qu'ils dépendent du Père. Et tout marche bien. Vous voyez? Et dit, il n'y en a pas un seul qui tombe sans que mon Père le sache. Il dit, alors vous, ne croyez pas que Dieu le sait ce qui vous arrive? Il s'en occupe. Amen. Donc on doit apprendre que la chose la plus importante, c'est que Dieu nous aime. Ok? Maintenant, on va lire Romains 9, verset 1, parce qu'on a un petit peu de temps. Si vous voulez, on va démarrer Romains 9, comme ça, la semaine prochaine, on aura déjà un petit peu débroussaillé le terrain. Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit, j'ai une grande tristesse et un chagrin continuel dans le cœur. Et là, on se dit, comment c'est possible qu'après ce que Paul vient de dire, qui est tellement extraordinaire, que on est sauvé, justifié, aimé de Dieu, qu'il n'y a personne qui peut nous accuser, que tout va bien, etc. Et puis Paul nous dit, j'en témoigne, et le Saint-Esprit en moi en témoigne aussi, je ne vous raconte pas des histoires, j'ai un chagrin continuel dans le cœur. Il y a quelque chose qui me rend triste, et c'est que je n'arrive pas à m'en débarrasser. Et on se dit, attends, Paul, tu as un problème. D'accord? Car je souhaiterais être moi-même anathème, c'est-à-dire maudit ou séparé, hein, du Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont les Israélites. En fait, le dilemme de Paul, c'est que justement parce qu'il connaît la grandeur du salut en Jésus-Christ, d'accord? Et qui sait ce que ça représente. Il est triste de voir que sa propre famille n'est pas dans le salut. Tout simplement. Il est triste de voir que son propre peuple n'est pas dans le salut. Et dit, si c'était possible de donner ma vie à leur place, je le ferais. Mais il sait que ce n'est pas possible. Parce qu'il y avait un Moïse avant lui qui avait fait cette prière. Et qui avait dit dans sa prière, efface mon nom du livre de vie, mais eux, pardonne-les. Et le Père lui avait répondu dans l'intercession de Moïse, ça, je ne peux pas le faire. Je ne vais pas effacer ton nom. D'accord? Donc, néanmoins, Dieu avait dit, je pardonne, etc. Donc ça, c'est l'histoire de Moïse avec Dieu dans son intercession dans le livre de l'Exode. Mais, donc, Paul sait, à cause de l'intercession de Moïse, il sait que ce n'est pas possible qu'ils prennent la place de ses frères. Vous voyez? Il n'y en a qu'un qui a pris notre place, c'est Jésus-Christ sur la croix. Mais s'il pouvait le faire, il le ferait. Donc il nous montre à quel point pour lui c'est une souffrance et une tristesse. Et il parle, il dit mes frères, mes parents, selon la chair. C'est très important cette expression selon la chair parce que ça veut dire je parle bien des Israélites, descendants d'Abraham, Isaac et Jacob. Du peuple d'Israël, je ne parle pas d'un Israël spirituel, vous voyez, je veux dire, on parle bien de cet Israël-là. Qui sont, verset 4, les Israélites? Israël, je le rappelle, c'est le nom nouveau donné à Jacob et qui veut dire prince avec Dieu. à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, le Messie donc, qui est au-dessus de toute chose, Dieu béni éternellement. Amen. Donc, Paul dit, eux, ou nous, si vous préférez, le peuple d'Israël, quel est notre héritage? L'adoption. Parce que Dieu dit à Pharaon, laisse aller mon fils, au travers de la bouche de Moïse et Aaron, laisse aller mon fils afin qu'il me serve. Donc Dieu considère Israël comme son fils premier-né. Israël est mon fils premier-né, laisse aller mon fils afin qu'il me serve, sinon je te prendrai ton premier-né à toi, dit Dieu à Pharaon. Et Pharaon résiste, et finalement tous les premiers-nés d'Égypte meurent, sauf ceux d'Israël, à cause de l'agneau pascal, qui est sacrifié à leur place, et c'est comme ça qu'ils sont sauvés de la destruction des premiers-nés et qu'ils peuvent sortir d'Égypte. Vous vous rappelez de ça? C'est la Pâque. Donc, à qui appartiennent l'adoption? Ils sont adoptés par Dieu comme des fils premiers-nés. Amen. Et c'est pour ça qu'en Israël, jusqu'à aujourd'hui, la loi de Moïse dit quoi? Chaque fois qu'il y a un fils premier-né, il faut un agneau, il faut le racheter, d'accord, en souvenir de la Pâque et de la sortie d'Égypte. Vous présentez un agneau. Maintenant, la gloire, c'est-à-dire le nom très saint de Dieu et puis sa présence quand il était dans la nuée au-dessus du tabernacle, dans le lieu très saint, Moïse qui parlait avec Dieu face à face, donc la gloire qui était dans Israël, c'est-à-dire que Dieu habite au milieu de son peuple. Ça aussi, c'est leur héritage. C'est pas rien. Troisièmement, les alliances. C'est-à-dire, et c'est lié avec les promesses dont il est parlé après, et la loi, alliance, loi, culte et promesses, tout ça c'est lié ensemble. C'est-à-dire que quand Dieu fait une alliance, dans son alliance, il y a des préceptes, des conditions, ça c'est la loi. Et puis il y a des promesses. Si tu fais ça, voilà, je te bénirai, etc. Donc tout ça, ça appartient à Israël. Dieu avait fait alliance avec son peuple, vous voyez? Et pourquoi les alliances au pluriel? Parce qu'il y a eu plusieurs fois où Dieu a fait alliance. La loi qui a été donnée à Israël, et si vous voulez, ici, rappelez-vous que Romains 9 fait suite à Romains chapitre 3, verset 1. Quel est donc le privilège du juif ou quelle est l'utilité de la circoncision? Considérable de toute manière, tout d'abord, les oracles de Dieu ont été confiés aux justes. Donc la première chose dans toute la liste, c'est que eux sont dépositaires des écritures, de la parole de Dieu écrite. Mais plus que des écritures, des oracles de Dieu, donc tout ce qui est parole prophétique, c'est le peuple des prophètes, les prophètes de l'Ancienne Alliance, qui sont tous des Israélites, d'accord? Donc, la loi, le culte, donc le culte c'est la vie du temple avec la prière, avec les fêtes, avec la louange, avec les lévites qui louent le Seigneur, etc. etc. C'est beaucoup de choses de culte. Les sacrifices, tout ça, ça leur appartient. Les promesses. Et une des promesses que Dieu a fait à Israël, c'était la promesse du Saint-Esprit. Je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Amen. Les patriarches. Parce que Abraham, Isaac et Jacob, c'était les modèles dont Moïse se sert pour enseigner la loi. D'accord ? Ils avaient une histoire, ils avaient des pères dans la foi. Et puis finalement, à la fin de toute cette liste extraordinaire qui vous montre tout ce que Israël a, il y a le Messie. Le Messie lui-même, Christ, est né dans une famille israélite. Sa mère s'appelle Myriam, son père c'est Dieu, mais il était né dans un cadre familial avec Joseph, etc. Vous voyez? En fait, c'est tellement extraordinaire l'héritage d'Israël, si vous voulez, c'est que Dieu a choisi Abraham et a choisi, a dit à Abraham, il faudra que tu enseignes tes fils et tes fils enseignent leurs fils, etc., de génération en génération, parce que je t'ai choisi pour être un peuple à part et pour bénir toutes les nations. Mais en fait, un des buts pour lesquels Dieu avait appelé Abraham, c'était que ce soit dans ce peuple que Dieu lui-même vienne s'incarner, que le Fils vienne s'incarner. Vous voyez ? Dieu n'est pas né dans un autre peuple que celui du peuple juif, parce que c'était un peuple qui était préparé pour ça. C'est quand même extraordinaire. La proximité entre Dieu et son peuple, c'est inimaginable. Ce n'est pas juste une question historique. Vous savez, il y a des gens qui ont tendance à considérer le peuple d'Israël comme un instrument de Dieu, mais bon, voilà, l'instrument il a servi un moment, maintenant il ne s'en sert plus, donc il l'a mis sur une étagère, et puis on fera différemment. Non. Dieu s'est uni à Israël. Il est venu naître dans ce peuple, je ne sais pas si vous voyez. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Donc il y en a qui l'ont reçu. Donc il s'est uni à Israël de manière, comment dire, impensable, extraordinaire. Donc Paul nous dit ici, pour revenir à Romains chapitre 9, on va relire ces cinq premiers versets, « Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas, ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit, j'ai une grande tristesse et un chagrin continuel dans le cœur, car je souhaiterais être moi-même anathème, séparé du Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont les Israélites, à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toute chose, Dieu béni éternellement. Amen. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire, j'ai une tristesse dans le cœur qui est continuelle. Et on verra dans la suite, jusqu'à la fin du chapitre 11, que dans l'histoire du salut, si vous préférez, le fait que pendant ces siècles où les nations reçoivent l'Évangile, et on est encore dans ce temps, même si ce temps maintenant est pratiquement arrivé à sa fin, ce qu'on appelle le temps des nations. D'accord ? Le fait que pendant ce temps des nations, Israël soit partiellement mis à l'écart. Vous voyez ? Et qu'il faudra attendre que toutes les nations aient entendu l'Évangile pour que Israël, de nouveau, puisse être ce fils aîné. Et que, vous savez, c'est un peu la parabole de Joseph avec ses frères. Joseph a été rejeté. Et puis, finalement, il y a la réconciliation avec ses frères. Mais ses frères ont rejeté Joseph. Joseph représente Jésus, ses frères représentent Israël. Et puis Joseph va en Égypte, d'accord ? Et puis en fait, il devient premier ministre, ça veut dire que c'est comme quand Jésus monte au ciel, qu'il est assis à la droite du Père, vous voyez, symboliquement. Et puis quand ses frères se retrouvent devant le trône d'Égypte, tout à coup, ils reconnaissent Joseph, Joseph les reconnaît, ils se reconnaissent les uns les autres, et là c'est un choc, d'accord ? Et c'est là que la réconciliation va avoir lieu entre Joseph et ses frères. Ça veut dire qu'il y aura une réconciliation entre Israël, qui était passé à côté du Messie, et son Messie. Vous imaginez la gloire de la fin des temps, quand Israël et leur propre Messie sont réconciliés. Ok ? Et c'est donc de tout ça que Jésus va parler, que Paul pardon, va parler, puisqu'il parle ici, et de qui est issu, selon la chair, le Christ. Et c'est cette réconciliation, entre Israël et son Messie, dont on va parler maintenant jusqu'à la fin du chapitre 11. Vous voyez ? Et ce temps de mise à l'écart, et cette souffrance pour Paul de se dire, mais eux, qui ont toutes ces choses, ils sont en train, certains d'entre eux en tout cas, de passer à côté. Vous voyez ? Vous savez, c'est un petit peu, mais comment dire ? L'image que je vais vous donner, elle est très 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 faible, mais c'est un petit peu, on retrouve ça dans la vie chrétienne, quand vous avez des chrétiens traditionnels qui savent tout, qui connaissent la Bible, qui sont dans l'Église, etc., etc., depuis même des générations. Et puis tout à coup, il y a quelqu'un qui était dans le péché, qui ne connaissait pas Dieu, qui était vraiment loin de toutes ces choses, et qui a une conversion radicale. Et puis nous, qui sommes les vieux chrétiens traditionnels, on est jaloux de cette personne, on se dit, mais comment c'est possible que Dieu fasse grâce à un pourri comme ça, et qu'il vive une telle gloire, et moi qui connais Dieu depuis à la limite des générations, je suis là, et j'ai l'impression de ne pas connaître Dieu et de ne pas être en relation avec lui. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, c'est un peu la même chose que vivait Israël par rapport au début des Actes des Apôtres. C'est Israël qui était censé tout avoir et tout connaître, et comme jaloux de ces païens qui entrent dans le salut, qui vivent tout à coup cette gloire extraordinaire, et eux qui disent, mais c'est pas possible. Il y a une erreur d'aiguillage dans le ciel. Dieu s'est trompé. Vous voyez, en fait, Dieu était juste, parce qu'il a dit, je suis d'abord venu parler aux fils d'Israël. Maintenant, si eux ne veulent pas entendre, alors je vais vers les nations. Vous voyez? Mais ça ne veut pas dire que Israël les a abandonnés. Que Dieu les a abandonnés, pardon. Ok? Ça ne veut pas dire ça. C'est ce que Paul va essayer de nous démontrer dans ces trois chapitres. Amen. Dieu a un plan qui va beaucoup plus loin que nous, parce que les plans, les desseins de Dieu durent de génération en génération. Et ça, c'est extraordinaire. Il y a un psaume qui dit ça, je crois que c'est le psaume 33. Les desseins de Dieu durent de génération en génération. Ok? Et en fait, Paul est triste, mais il sait. Et on verra à la fin du chapitre 11 qu'on va réatteindre un sommet. Là, tout à coup, on était au sommet de Romains 8, on est tombé très très bas, début de Romains 9, une tristesse continuelle dans le cœur, et on va remonter la pente, on arrive à un nouveau sommet dans Romains chapitre 11. Ok? Et ce sommet, ce sera de comprendre que Dieu, ses desseins durent de génération en génération. Alléluia. Et donc que tout à coup, et là, pour Israël, c'est encore, j'allais dire pire, c'est encore plus extraordinaire que pour notre propre vie. Pour nous, si en l'espace de 2-3 générations, on voit tout à coup la main de Dieu, on trouve ça extraordinaire. Mais pour Israël, ça fait des siècles et des siècles, vous voyez, et tout à coup Dieu intervient. Ça, c'est extraordinaire. Ça nous dépasse. Ça montre la fidélité de Dieu, ça montre sa miséricorde, ça montre la grandeur de Dieu qui nous dépasse complètement. Et si on essaye de, si vous voulez, d'interpréter l'évangile à la lumière de notre petite compréhension et de nos petites générations, on va passer à côté de la grandeur de Dieu. Et certains théologiens ont tendance à minimiser Israël. En disant, oui, bon, ils ont été utilisés par Dieu, mais enfin, maintenant, ce qui compte, c'est que c'est l'Israël de Dieu, tout est spiritualisé, on spiritualise tout, y compris les prophéties. Mais Dieu est beaucoup plus concret et beaucoup plus, j'allais dire, terre à terre que ce qu'on imagine. Amen. Et Dieu a un plan, et il va arriver au bout de son plan, parce que Dieu est un Dieu fidèle. Et quand il fait alliance, il tient parole. Et on verra ça donc la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Amen.